Imaginez un peu la situation. Disputer le match le plus angoissant qu'on puisse imaginer sur un terrain de sport, dans la position la plus impitoyable qui existe.
La gardienne de but, ouais.
Exactement, celle de gardienne de but. Et tout ça lors d'une finale continentale, avec le poids de l'histoire et vraiment les espoirs de toute une nation qui repose littéralement sur vos gants.
C'est une pression inimaginable.
Et là, ajoutez à ce tableau un détail complètement ahurissant. Il y a seulement quelques années, cette joueuse ne jouait même pas à ce poste.
Et non, c'est ça qui fout.
Elle était attaquante. C'est vraiment le point de départ de l'histoire qui a captivé tout le continent hier soir. On est aujourd'hui le lundi 17 août 2026 et hier, dimanche 16 août, le Cameroun a remporté sa toute première Coupe d'Afrique des Nations Féminines, la WAFCON.
Un moment historique, vraiment.
Historique, oui. Et une jeune femme de 22 ans, Michaëlle Kiria Biina, est devenue en fait la clé de voûte de cet exploit retentissant.
Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un de ces rares moments où l'ascension individuelle d'une athlète raconte une histoire beaucoup plus vaste. Ça raconte l'évolution même d'un sport.
Ouais, ça dépasse de loin le cadre du terrain.
Voilà, c'est pas juste le fait de soulever un trophée. C'est toute l'architecture psychologique et tactique qui a permis à cette joueuse de redéfinir, en l'espace d'un seul tournoi, ce que ça signifie d'être décisive au plus haut niveau.
Bon, décortiquons tout ça. Pour cette analyse, on s'appuie aujourd'hui sur une source d'une très grande richesse. Un article d'investigation vraiment fouillé.
Très détaillé, oui.
Rédigé par la journaliste et éditorialiste Félicité Aman et Ravi Vincent, et publié par Radio Tom Tom Africa. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est d'aller bien au-delà du simple résumé de match.
On veut comprendre les rouages, en fait.
C'est ça. On veut comprendre le comment et le pourquoi. Comment une joueuse aussi jeune, qui a fait une reconversion de poste aussi radicale, parvient à neutraliser des équipes entières et à absorber une telle pression historique?
La réponse, elle se trouve vraiment à l'intersection entre la biomécanique, la préparation mentale et, je dirais, une capacité d'adaptation hors norme.
Ouais, le fameux article de Radio Tom Tom Africa ne décrit pas seulement des arrêts spectaculaires.
Non, il cartographie le développement cognitif d'une joueuse qui a, et le mot n'est pas trop fort, qui a littéralement piraté les exigences de son nouveau poste pour s'imposer sur la scène internationale.
Et justement, pour saisir la dimension de ce développement cognitif, il faut, paradoxalement, s'éloigner un peu de la finale d'hier.
Il faut remonter le temps.
Voilà. Remonter au match qui a véritablement servi de point de bascule. Le quart de finale face au Nigeria.
Les fameuses Super Falcons.
L'équipe la plus titrée du continent. Tenante du titre. Et surtout, on parle d'un vrai traumatisme national pour le Cameroun.
Ah bah, trois finales continentales perdues face à cette même équipe nigérienne. En 2004, 2014 et 2016.
Donc affronter le Nigeria, c'était pas un simple match de foot. Je fais souvent cette analogie, c'est comme devoir battre le boss final d'un jeu vidéo dès le milieu de la partie.
C'est une excellente métaphore. Devoir escalader une montagne psychologique sur laquelle des générations entières de joueuses camerounaises se sont cassées les dents.
Comment on gère ça?
Le contexte historique est d'une lourdeur écrasante. En psychologie du sport, on a un terme pour ça, on appelle ça l'héritage d'échec.
Héritage d'échec, même si les joueuses actuelles n'étaient pas sur le terrain en 2004.
Exactement. Elles héritent de cette anxiété collective. L'environnement, les médias, les supporters, tout le monde projette cette peur de l'adversaire maudit sur le groupe actuel.
Et c'est là que la jeunesse joue à son avantage.
C'est précisément là que l'âge de Michaëlle Biina devient une arme redoutable. Oui, à 22 ans, disputant sa toute première CAN, elle bénéficie de ce qu'on pourrait qualifier de naïveté compétitive.
Elle n'a pas les cicatrices des anciennes, quoi.
Voilà, elle n'a pas ce tissu cicatriciel. Elle arrive avec une forme de page blanche.
Mais l'instinct et la page blanche, ça fait pas tout. L'article est formel sur les stats. Elle réalise 9 arrêts décisifs dans ce match. 9 arrêts pour préserver une victoire 1-0.
Face à une attaque nigérienne qui domine le continent depuis des années, c'est monumental.
Ce qui m'intrigue ici, c'est la charge physique et mentale. Au bout du 4e ou 5e arrêt, l'adrénaline ne suffit plus, non?
Ah mais absolument pas. En fait, l'adrénaline devient même toxique sur la durée d'un match de 90 minutes.
Toxique, c'est-à-dire?
Eh bien, l'adrénaline provoque une accélération du rythme cardiaque et un rétrécissement du champ visuel. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel.
Ah ouais, tu vois plus que ce qui est juste devant toi.
C'est ça. Donc, pour réaliser 9 arrêts décisifs espacés dans le temps, il ne faut surtout pas de l'adrénaline pure. Il faut une régulation parasympathique exceptionnelle.
Alors, attends. Régulation parasympathique, comment ça se traduit concrètement sur le terrain?
c'est la capacité du système nerveux à redescendre instantanément en pression après une action intense. Le but, c'est de retrouver un niveau de concentration optimal.
Ok, je vois.
Imaginez le cerveau d'une gardienne. Chaque tir exige un calcul immédiat de la trajectoire, de la vitesse, de l'effet du ballon, et tout ça est suivi d'une explosion musculaire.
Et juste après ça, boum, il faut se remettre en classe.
Immédiatement. Il faut réorganiser sa défense, replacer son corps, évacuer l'acide lactique des muscles et surtout, c'est le plus important, ne pas revivre l'action précédente.
Conserver cette lucidité à la 80e minute, c'est un truc de fou.
Sous des assauts répétés, oui. C'est ce qui sépare une bonne gardienne d'une joueuse d'exception.
Et cette victoire 1-0 a fait bien plus que briser la malédiction. Elle a aussi validé la qualification directe pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil.
Et la joueuse en est parfaitement consciente d'ailleurs.
Ouais, l'article rapporte une phrase qu'elle prononce après le match. Elle dit, je cite, « Jouer ma première CAN féminine, battre le Nigeria et nous qualifier pour la Coupe du Monde est historique. »
C'est d'un calme...
C'est ça, une déclaration hyper factuelle, posée, presque clinique. Ça tranche tellement avec l'hystérie qui devait régner autour d'elle dans les vestiaires.
Tout à fait.
Mais bon, si le quart de finale était un test de résistance pure, la demi-finale contre le Maroc, ça a été une toute autre histoire.
On quitte l'affrontement physique pour entrer dans la guerre psychologique.
Exactement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On pose le décor, on est à Rabat, face au pays hôte, dans un stade chauffé à bran.
Une ambiance électrique.
Un match hyper fermé, et on arrive à la 118e minute des prolongations.
L'instant où l'épuisement cognitif est à son paroxysme. T'es au bout du rouleau.
Et la faute de Maeva Niadjou sur Sakina Ouzraoui, l'arbitre au siffle, pénalty pour le Maroc.
Le moment de bascule.
Fatima Tagnaout s'avance pour exécuter la sentence et potentiellement envoyer son pays en finale. Et Biena plonge à droite et repousse le ballon.
Un arrêt vital qui propulse les deux équipes au tir au but.
Et c'est pas fini. Au tir au but, elle va arrêter trois nouvelles tentatives. Kenza Chapelle, Maria Matic...
Et Sakina Ouzraoui, oui.
Et Sakina Ouzraoui, ce qui offre la victoire 3-1 au Cameroun. Et c'est précisément sur ce point que je veux qu'on s'arrête deux secondes.
Je sens venir la question sur la chance.
Bah oui, on entend tout le temps dans les médias que les tirs au but, c'est une loterie. Et franchement, avec des arrêts de cette envergure, est-ce qu'on peut encore parler de hasard?
C'est une excellente question.
Parce que le point de pénalty est à 11 mètres, une frappe puissante, ça voyage à plus de 100 km/h. Le temps que le ballon atteigne la ligne, il s'écoule quoi, 0,3 secondes.
Environ, oui.
Et sachant que le temps de réaction humain est d'environ 0,2 secondes et qu'il faut ensuite déclencher tout le plongeon, c'est mathématiquement impossible sur le seul réflexe.
Tu as tout à fait raison et les chiffres que tu cites sont implacables. Si une gardienne attend que le ballon quitte le pied de l'attaquante pour réagir, elle est déjà battue.
C'est mort.
C'est physiquement inarrêtable. Mais c'est là que l'analyse de Radio Tam Tam Africa est vraiment cruciale. Ce n'est pas de la loterie et ce n'est pas du réflexe pur non plus.
C'est quoi alors ?
C'est de l'anticipation biomécanique basée sur la collecte de données.
De l'anticipation biomécanique ?
Oui. L'éditorialiste souligne que le succès de Biena repose sur une étude préalable hyper minutieuse. En fait, elle ne regardait pas le ballon, elle lisait les corps.
Lire les corps. Mais comment on applique ça concrètement dans la fraction de seconde avant la frappe ?
Tout est dans la cinématique de l'attaquante. Une joueuse qui va frapper doit planter son pied d'appui, tu vois ?
Ouais.
L'angle de ce pied d'appui... l'orientation des hanches, l'inclinaison des épaules au moment où elle arme sa jambe de frappe.
Tout ça donne des indices.
Exactement. Tous ces éléments sont des indicateurs que le cerveau de la gardienne, s'il a été nourri par des heures de visionnage vidéo en amont, va traiter de manière presque inconsciente.
Donc elle sait où ça part avant même la frappe.
La gardienne plonge en réalité une fraction de seconde avant l'impact, parce que la biomécanique de la tireuse lui a déjà hurlé la direction du ballon. C'est vraiment une science de la probabilité appliquée sous un stress extrême.
C'est vertigineux, quand on y pense. Elle avait fait ses devoirs, quoi, pour identifier ces signaux spécifiques aux joueuses marocaines.
Tout à fait. Et il y a aussi une dimension purement mentale dans cette séance.
Ouais, elle déclare par la suite, après le premier pénalty arrêté, « Je me suis dit que je pouvais encore en repousser d'autres. »
Voilà. Et cette simple phrase, ça semble anodin, mais ça cache un mécanisme psychologique bien plus complexe qu'une simple petite bouffée de confiance.
Ah oui.
Ça illustre à la perfection la théorie de l'auto-efficacité développée par le psychologue canadien Albert Bandura.
L'auto-efficacité, d'accord.
Pour résumer simplement, notre comportement face à un défi dépend de notre croyance en notre propre capacité à le surmonter.
Ok.
Or, cette croyance ne naît pas de nulle part. Elle se forge parce que Bandura appelle des expériences de maîtrise.
Donc le premier pénalty arrêté.
Exactement. En arrêtant ce premier pénalty à la 118e minute, Birina a créé une expérience de maîtrise immédiate.
Son cerveau s'est dit « je gère ».
Son cerveau s'est recablé en temps réel pour percevoir la séance de tir au but, non plus comme une menace terrifiante, mais comme un défi tout à fait gérable.
Et j'imagine que l'effet inverse se produit chez l'adversaire.
C'est le principe des vases communicants. Les joueuses marocaines qui s'avançaient voyaient une gardienne dont l'envergure semblait avoir doublé.
Elle prenait toute la place dans leur tête.
Le langage corporel de Bichina, galvanisé par cette auto-efficacité, occupait tout l'espace mental des tireuses.
Ce qui fait que leurs hanches se raidissent, le regard fuit, la frappe perd en précision.
La bataille est gagnée bien avant le coup de sifflet de l'arbitre.
C'est fascinant. Ce qui nous amène à la question centrale finalement. Comment une joueuse développe-t-elle une telle empathie tactique? Comment elle arrive à lire dans l'esprit et dans les muscles des attaquants avec une telle précision?
La réponse, elle se trouve en la jeunesse de sa carrière.
Et c'est sans conteste le détail le plus révélateur des sources qu'on étudie aujourd'hui. Michaëli Birina, qui est née le 28 décembre 2003 à Yaoundé, n'a pas du tout été formée pour être gardienne.
Non, pas du tout.
Au départ, elle évoluait au poste d'attaquante.
C'est un changement de paradigme fondamental dans cette histoire.
C'est son entraîneur de l'époque qui, en remarquant ses aptitudes physiques, prend la décision de la reculer sur le terrain.
Une décision brillante avec le recul.
Et ça me fait penser, tu sais, à une dynamique très précise dans le monde de la cybersécurité.
Oh, laquelle ?
Bah, les meilleurs défenseurs des systèmes bancaires, ce sont très souvent d'anciens hackers.
Ah oui, c'est vrai.
Et pourquoi ? Parce qu'ils connaissent le code source de la menace. Ils savent exactement comment un pirate pense, où il va chercher la faille et à quel moment précis il va relâcher sa garde. En ayant été attaquante, Bina possède les codes sources de ses adversaires.
C'est une super analogie, l'analogie du hacker, parce que ça décrit exactement le processus d'ingénierie inverse qui s'opère dans son cerveau.
C'est clair.
Poursuivons sur cette idée. Quelle est la plus grande faille d'une attaquante lors d'un face-à-face signante ?
L'hésitation.
Oui, mais surtout le moment précis où elle doit baisser les yeux pour contrôler son ballon avant de frapper. Pendant cette fraction de seconde, elle est littéralement aveugle à ce que fait la gardienne.
Ah ouais, elle regarde le ballon, pas la gardienne.
Ayant elle-même joué devant, Biana ressent instinctivement ce timing. Elle sait reconnaître la précipitation d'une attaquante qui sent l'angle se fermer ou l'hésitation face à une feinte de sortie.
Elle réagit pas au mouvement, elle anticipe les doutes.
Exactement.
Et pourtant, opérer cette mutation, passer d'attaquante à gardienne, ça n'a rien de naturel. C'est accepter de passer de la joueuse qui crée le spectacle à celle dont la moindre petite erreur se solde par une catastrophe absolue au tableau d'affichage.
C'est une pression totalement différente.
Mais sa progression a été fulgurante. L'article de Radio Tam Tam Africa retrace un parcours accéléré, mais vraiment très structuré.
Elle a franchi toutes les étapes.
Un passage par les catégories U17, U20 et une intégration en sélection A dès 2021 pour les qualifications des Jeux de Tokyo.
C'est très jeune pour une gardienne.
Et sur le plan des clubs, elle fait d'avoir ses gammes au Cameroun, avec l'éclair de Saya, de 2017 à 2022. Et d'ailleurs, la source tient à corriger une rumeur persistante à ce sujet.
Oui, c'est un point important à clarifier.
Elle n'a pas débarqué en Europe à 15 ans, comme certains le disent. Elle est arrivée au Portugal en 2022 avec un bagage technique qui était déjà très sérieusement forgé au niveau local.
Cette précision factuelle a son importance, parce qu'elle valide vraiment la qualité de la formation locale au Cameroun.
C'est pas juste un talent brut exporté trop tôt.
Voilà. C'est une joueuse qui a mûri avant de se confronter aux exigences européennes. Et son arrivée au Racing Power, au Portugal, marque la deuxième phase de sa mutation.
Une phase couronnée de succès, d'ailleurs.
Oui, elle permet à son club d'accéder à la Ligue et décroche même le titre de meilleure gardienne de la Liga BPI pour la saison 2023-2024.
Rien que ça.
Et ce prix, décerné par la Fédération et le Syndicat des joueurs, agit vraiment comme un certificat de conformité aux standards européens.
Une conformité qui a forcément attiré les regards les plus prestigieux, parce que ça débouche sur un transfert majeur. Le 1er février 2026, l'annonce tombe. Elle signe avec le grand Benfica Lisbonne jusqu'en 2029.
Une consécration.
Et elle dispute son premier match en mai, décrochant une victoire sans encaisser de but contre Rio Ave, 1-0.
On parle pas de n'importe quelle institution, là.
Le Benfica vient de clôturer une saison en tant que champion invaincu, raflant son 6e titre consécutif.
C'est une machine de guerre.
Elle intègre une structure conçue pour l'excellence tactique.
Et c'est précisément ce dont elle avait besoin à ce stade de sa carrière. L'article souligne avec beaucoup d'honnêteté que, malgré ses prouesses, elle conserve encore d'importantes marges de progression, ce qui est normal vu son âge.
Bien sûr, à 22 ans, on parle de quoi? De la lecture du jeu?
On évoque la lecture du jeu sur le long cours, les sorties aériennes dans les zones denses et la précision de sa relance au pied. Et le Benfica va lui offrir cette rigueur structurelle.
C'est la finition, quoi.
Si son passé d'attaquant lui a donné l'instinct de survie dans la surface, l'école européenne va lui apprendre l'art de commander une défense de manière proactive.
Empêcher les tirs plutôt que de devoir les arrêter.
Au Benfica, elle apprend à empêcher les situations dangereuses de se former en amont, plutôt que d'avoir à les sauver sur la ligne.
Cet apprentissage tactique hyper rigoureux, couplé à son instinct naturel, ça nous mène directement à l'apothéose d'hier soir.
Le couronnement.
Le 16 août 2026, à Rabat, la grande finale de la WAFCON face au Malawi. Bon, après le Nigeria et le Maroc, on aurait pu s'attendre à une nouvelle bataille dantesque, mais le match a pris une tournure très différente.
Oui. Le déroulement de la finale illustre parfaitement l'impact de ce qu'on vient de décrire. L'équipe du Cameroun, galvanisée par toutes ses épreuves précédentes, a imposé une maîtrise collective impressionnante.
Le score parle de lui-même, hein. Une victoire indiscutable, 3-0.
Sans appel.
L'article précise que Bina était logiquement moins assailli que lors des tours précédents. Mais, et c'est là qu'on reconnaît les très grands joueurs, son niveau de vigilance n'a pas baissé d'un seul cran.
Elle est restée dans son match.
Ouais, peu après l'heure de jeu, alors que la concentration pourrait faiblir, elle est mise à l'épreuve par une frappe dangereuse de Tabitha Tshewinga. Elle s'interpose fermement, le rebond échappe de peu à Temwa Tshewinga et hop, le danger est écarté.
Un arrêt propre, décisif.
Pendant ce temps-là, le secteur offensif camerounais brille avec un super doublé de Marie-Gisèle Gaamanga et un but de Naomi Eto. Au coup de sifflet final, l'histoire est gravée dans le marbre.
Les Camerounaises sont sur le toit de l'Afrique pour la toute première fois.
Et l'onde de choc de cette victoire, elle a été instantanée. Le journaliste note que l'effervescence a immédiatement gagné tout le pays.
C'est un phénomène de société.
Sur les réseaux sociaux, l'emballement est tel que des milliers d'anonymes réclament la construction symbolique d'une statue à l'effigie de la jeune gardienne. Ce qui nous pousse à nous interroger, pour ceux qui nous écoutent, sur la portée symbolique de cet événement. Comment on doit interpréter l'émergence d'une telle figure bien au-delà de la ligne de but ?
Réclamer une statue, même sous le coup de l'euphorie digitale, ça traduit un besoin viscéral d'identification.
Hein, intéressant.
Michel et Bicolina cristallisent vraiment l'archétype moderne de la réussite africaine dans le football. Elles démontrent qu'il n'est plus nécessaire de choisir entre l'enracinement local et l'ambition internationale.
On peut avoir les deux ?
Exactement. Elle a capitalisé sur 5 années de fondation solide au Cameroun avant d'aller chercher la rigueur tactique au Portugal. Et surtout, elle incarne une leçon de discipline émotionnelle stupéfiante.
Rester de marbre à 22 ans.
Voir une jeune femme s'élever avec un tel calme au milieu de cette tempête médiatique et sportive, ça offre un modèle de résilience inestimable. Elle prouve que le destin sportif n'est pas une ligne droite préétablie, mais vraiment un chemin qui peut se réinventer radicalement.
Une réinvention qui ouvre d'immenses perspectives pour l'avenir. Parce que le triomphe d'hier, c'est aussi un passeport pour la suite.
Le prochain gros chapitre.
Radio Tam Tam Africa nous rappelle le calendrier à venir, la Coupe du Monde 2027, qui se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet.
Ça va arriver vite.
Et grâce à leurs résultats, le Cameroun, qui y signera d'ailleurs son retour après 2015 et 2019, le Malawi, l'Algérie et le Maroc ont décroché leur qualification directe. L'enjeu sera d'un tout autre niveau face aux machines tactiques européennes et nord-américaines.
Ah oui, le défi sera colossal. L'exigence cognitive d'un mondial ne pardonne aucune errance, aucune baisse de régime.
C'est sûr.
Mais si l'on considère la courbe d'apprentissage de cette joueuse, sa capacité incroyable à décoder les attaquantes adverses et l'expérience quotidienne qu'elle accumule désormais avec le Benfica...
Elle a les armes.
Elle dispose de tous les leviers nécessaires pour élever encore son niveau de jeu. L'infrastructure mentale est déjà en place.
Franchement, ce parcours est, de bout en bout, une illustration frappante de ce que l'adaptation humaine peut produire de plus spectaculaire.
Totalement.
Une enfant de Yaoundé qui court après les ballons en attaque, qui est replacée par intuition dans les buts et qui se transforme en l'espace de quelques années seulement en titulaire du Benfica Lisbonne et en championne d'Afrique.
Une progression bâtie sur l'étude scientifique de l'adversaire.
Sur la gestion chirurgicale du stress. Et sur cette capacité folle à puiser dans son propre passé d'attaquante pour anticiper l'avenir d'une action.
C'est la synthèse parfaite entre l'intelligence situationnelle et l'excellence athlétique. Rien n'est le fruit du hasard dans cette ascension. Chaque détail, chaque ancienne habitude de terrain a été recyclé pour construire une muraille infranchissable.
Et c'est justement cette notion de recyclage et de changement de rôle qui résonne super fortement à l'issue de cette exploration.
C'est la grande leçon de cette histoire.
Tout au long de notre analyse, un constat s'impose. Si son entraîneur de l'époque n'avait pas eu l'intuition de la sortir de son rôle d'attaquante pour la placer dans les buts, l'histoire du football africain aurait été bien différente ce matin.
Elle serait sûrement passée inaperçue.
Elle aurait sans doute été une bonne attaquante, oui. Mais elle n'aurait jamais touché à cette forme de génie qui a permis à son pays de briser la malédiction. Et ça soulève une interrogation fondamentale pour nous tous, bien au-delà des terrains de foot.
Une vraie piste de réflexion personnelle.
On peut légitimement se demander combien de personnes, dans leur vie professionnelle ou dans leur trajectoire personnelle, s'épuisent au quotidien à essayer d'être de moyens attaquants, tout simplement parce qu'elles occupent le mauvais poste.
C'est une question puissante.
Est-ce qu'on possède tous un talent caché exceptionnel de gardien de but qui ne demande qu'à s'exprimer ? Parfois, il suffit d'un regard extérieur, d'un simple changement d'angle de vue ou du courage d'accepter de redéfinir totalement son propre rôle pour que notre véritable potentiel se révèle enfin au grand jour.
Prendre le risque de changer.
Gardez l'œil ouvert sur les opportunités de réinventer votre propre terrain de jeu. À très bientôt pour une nouvelle analyse.